Bienvenue dans Sur le grill des Cotables, le podcast qui décrypte les enjeux environnementaux, sanitaires et sociaux de notre alimentation. Ce podcast est aussi l'occasion de dresser des portraits de l'écosystème écotable. Ces militants de l'assiette, je les rencontre depuis le lancement des Cotables début 2019. Ils se réunissent autour d'objectifs communs, l'écologie et le bien manger. Aujourd'hui, à travers ce nouveau format, je souhaite faire connaître ces restaurateurs, agriculteurs, entrepreneurs, militants. Je souhaite vous faire partager ses engagements, ses parcours. J'espère que ces portraits vous plairont. N'hésitez pas à me faire un retour et à nous soutenir en notant ce podcast 5 sur 5 et en le partageant largement. Bonne écoute! Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir dans les militants de l'assiette Alexandre Lavatine. J'ai rencontré Alexandre récemment lorsqu'il m'a présenté le projet qu'il a cofondé, Le Grand Paris. Le Grand Paris, c'est tout d'abord un livre qui sort le 10 février et qui se veut être à la fois guide des restaurants parisiens et livre de recettes. Le livre présentera également des articles de fond sur des sujets qui agitent le milieu de la restauration, comme la question de la parité homme-femme. Pour ce projet, Alexandre est venu me rencontrer. Son ambition était d'aller plus loin que celle d'un livre. Alexandre est animé, comme moi, par l'idée d'accompagner les restaurateurs dans l'éco-responsabilité. Pour cela, il m'a proposé que le Grand Paris s'associe avec Écotable afin que les fonds liés à la vente de chaque livre puissent servir à accompagner et former les restaurateurs sur ces questions. Ainsi, chaque livre acheté servira in fine à accompagner les restaurateurs pour que la réouverture ne soit pas seulement rentable, mais aussi durable. En ces temps moroses, le projet m'a tout de suite emballé. En effet, si la pandémie a une fin, les enjeux environnementaux et climatiques restent aujourd'hui plus qu'urgents. Je suis donc ravie d'accueillir Alexandre dans cet épisode spécial afin de mieux comprendre son parcours et ses ambitions. Bonjour Alexandre.
Bonjour Fanny. Et puis merci pour la présentation. Je pense que tu as très bien résumé le projet du Grand Paris. Est-ce que tu veux que je représente un peu le projet ou...
On va y revenir, bon, on va d'abord après. Parler un peu de toi, ouais. et ensuite tu nous parleras évidemment du Grand Paris.
Okay.
Est-ce que tu peux d'abord te présenter pour que nos auditeurs et nos auditrices sachent mieux qui tu es?
Ouais. Bonjour à tous, donc moi c'est Alexandre Lavatine, je suis avant tout un passionné de restauration, mais un passionné qui a jamais fait le saut, entre guillemets, dans le secteur. C'est une passion d'enfance, j'ai toujours voulu ouvrir un restaurant, j'ai toujours été animé par le secteur de la restauration, l'hôtellerie, mais on sait tous que c'est un milieu qui est extrêmement compliqué, c'est très dur d'ouvrir un restaurant, et donc en fait on m'a toujours un peu repoussé l'idée, entre guillemets, de se dire tu t'iras dans le monde de la restauration plus tard, etc. Fais d'abord une école de commerce, enfin forme-toi sur un modèle plus classique, entre guillemets. Donc en fait, j'ai un parcours classique, école de commerce, avec une spécialité en stratégie de marque et business dev.
C'est intéressant ce que tu dis parce qu'il me semble que ta mère est restauratrice.
Ouais.
Donc est-ce que tu veux dire que ta mère t'a toujours découragé à ce métier en te disant sincèrement, je le souhaite pas. Ce que j'entends souvent dans le milieu des avocats, moi j'ai fait du droit avant,
ouais.
Et mes amis avocats qui ont eu des enfants récemment, ils me disent mais la dernière chose que je souhaite à mes enfants, c'est d'être avocat.
Et ben c'est un peu ça. Il y a ma mère qui est restauratrice, et il y a aussi mon oncle qui a beaucoup pesé dans la balance, qu'il a travaillé pour des grands chefs étoilés en tant que sommelier. Et c'est surtout lui qui m'a dit c'est un métier qui est très contraignant, c'est un métier de passion. J'adore ce que je fais. Mais est-ce que tu es prêt à travailler en coupure? Est-ce que tu es prêt à ne pas voir ta famille le soir? Est-ce que tu es prêt à toutes ces questions? Et au fur et à mesure, bah, en fait, ça m'a orienté dans d'autres voies parce que en fait, je ne sais pas si je me sentais encore suffisamment prêt pour faire ce saut. Donc, parcours classique. Et après, donc, j'ai cofondé en l'année de la présidentielle un projet qui s'appelait la bière des Français, où en fait, à l'époque, on avait lancé un projet dans la bière à façon, de se dire on avait caricaturé un peu la présidentielle et de se dire en fait, on va à travers des bières présenter un maximum de microbrasseurs aux consommateurs, sachant qu'à l'époque, j'étais en étude à Lille. Lille, bassin de la bière. Et en fait, on avait fait le parti pris d'aller chercher des brasseurs de d'autres régions pour faire découvrir d'autres brasseurs au Lillois.
Alors attends, là, j'ai l'impression que tu sautes un peu des étapes dans, ta, ouais. dans ton parcours. C'est fréquent, t'en fais pas. Donc tu fais une école de commerce. Juste sur le choix de cette école de commerce et de ne pas aller dans le milieu de la restauration, ouais. T'as quelle image du métier de restaurateur quand tu vois ta mère ? T'en as quand même une image positive ?
Ouais, bah j'en ai une image hyper positive parce que sinon, j'aurais pas envie d'aujourd'hui de travailler avec le secteur, travailler avec les restaurateurs. Donc, j'ai une image qui est hyper positive du secteur. Mais après, ma mère a repris le restaurant quand j'avais 6 ans. Et en fait, j'ai aussi vécu cette phase d'être fils de restaurateur, de très peu voir ma mère, où c'est parfois très difficile. Et après, c'est les mêmes problématiques qui reviennent, que ce soit avec les salariés, etc., où il y a beaucoup de turnover. Enfin, c'est un métier qui bouge énormément, beaucoup de contraintes. Donc, en fait, j'ai un côté hyper positif du secteur. Parce que j'aime recevoir, j'aime la convivialité, j'aime l'ambiance qui se passe dans un restaurant et j'aime surtout le message qu'un chef veut faire passer dans l'assiette où, en fait, il se dit, bah voilà, juste avec cette assiette, je vais rendre heureux quelqu'un. Et c'est vraiment ça qui m'anime dans le milieu.
Ok. Mais donc, tu finis par faire cette école de commerce. Ouais. Qu'est-ce que tu fais en sortant de l'école ? Tu fais quoi comme école de commerce ?
Je fais une licence à la Cato à Lille, okay. Licence en éco-gestion. Et après, je pars à Neoma faire un master en business dev et gestion grand compte avec une petite capsule sur la stratégie des marques pour me rapprocher aussi de la communication. Qui était une de mes passions aussi, tout ce qui est stratégie de marque, communication, design. Donc en fait, j'ai essayé de lier ces deux milieux.
Et donc, quel est le premier boulot que tu fais en sortant
Boulot limite basique de quelqu'un qui sort d'école de commerce, cabinet de conseil. Donc je pars pour 3 ans au cabinet de conseil. Je commence en tant que digital marketing, donc faire du digital pour des grands groupes. Et après, par ma fougue et puis pour mon envie de toujours vouloir faire plus et puis aussi mon incapacité à rester stable, à toujours vouloir faire différentes choses, à cette époque-là, le cabinet de conseil ouvre un lieu d'innovation de 1600 m² au cœur de Paris et ils me disent « Est-ce que tu veux devenir responsable du site ?»
Chouette.
Donc je fais « Ok ». À cette époque-là, j'étais encore en alternance. Donc je saute, je vais en alternance gérer le site et après tout s'est enfilé de fil en aiguille et je finis dans le cabinet de conseil pour me rapprocher un peu du monde de la restauration parce que je finis en tant que hospitality manager en montant une offre à destination des hôtels et des restaurants pour les accompagner sur leur transformation digitale et leur transformation environnementale.
Ah, donc déjà la transformation environnementale voilà. Apparaît. Est-ce
apparaît.
Que tu peux nous en parler un peu plus ?
Bah, en fait, ce qu'on se rend compte, et c'est pour ça aussi que je veux faire, qu'on a voulu faire ce livre, c'est que tout ce qui est transformation environnementale, la durabilité, etc., c'est des mots qu'on entend énormément au cabinet de conseil parce que ça ne se limite pas du tout à l'alimentation. On en parle dans tous les secteurs, que ce soit l'automobile, la banque, etc. C'est des concepts qui sont présents dans tous les secteurs. Et on s'est dit, il y a aussi le monde de l'hôtellerie à transformer, que ce soit des grands groupes comme Marriott, Barrière, etc., sans citer forcément. Mais c'est de se dire, eux, ils ont aussi des enjeux là-dessus. Donc, montons une offre pour les accompagner sur quelle est votre empreinte carbone, comment vous pouvez travailler plus en circuit court, comment vous pouvez vous rapprocher plus des producteurs, et puis après des concepts encore un peu plus lointains, mais comment demain on pourra faire de la traçabilité alimentaire, comment demain le consommateur pourra dire sur un plat, voilà mon plat il vient de tel producteur, mes légumes ils viennent de tel endroit, etc., ils ont été fabriqués de telle façon. Donc c'est plein de concepts qu'on a essayé de faire émerger dans le cabinet de conseil à destination des grands groupes.
Un peu ce qu'on
groupes.
Fait au final, nous,
voilà.
Chez Ecotam.
Voilà. Okay. Mais plus sur la destination des grands groupes. Et c'était aussi l'idée du livre de se rapprocher des restaurateurs indépendants qui, pour moi, sont aussi la clé de succès de la ville. Parce qu'on ne peut pas se permettre de supprimer la restauration indépendante.
Ok, alors, donc, tu entres dans ce cabinet de conseil, tu arrives à retomber sur tes pattes en accompagnant le milieu qui t'intéresse particulièrement. Ouais. Puis, donc, il y a ce projet de bière.
Ouais.
Comment ça naît, ce projet de bière ?
En fait, il naît pendant que je suis en première année d'alternance dans le cabinet de conseil, où en fait, j'étais passionné par le monde des startups, etc. Passionné aussi déjà par tout ce qui est question de petits producteurs du territoire français. J'avais une vraie volonté de valoriser le territoire français.
Et d'où ça vient, ça ?
Ça vient d'un voyage. Ça vient d'un voyage en L1. Je pars 6 mois à Vancouver, un peu en mode ras-le-bol. Ras-le-bol de la France, etc. Envie d'aller voir autre chose. Et en fait, au bout de 2 semaines à Vancouver, en fait, je me rends compte que je suis... je crois le mec le plus amoureux de la France, que les terrasses me manquent, que l'ambiance française me manque, que la nourriture française me manque, etc. Et en fait, là-bas, je deviens presque le mec qui porte la bonne parole de la France à Vancouver. Et je me suis fait le pari de quand je rentrerai en France, en fait, j'en ferai mon chemin de bataille, de se dire je valorise le territoire français, je valorise la marque France, etc. Et je valorise tout ce qui se passe en France et toutes les bonnes choses qui se passent en France.
Il doit quand même y avoir quelque chose dans ton éducation, parce que je ne l'ai pas dit dans la présentation, mais ce qui est rigolo, c'est que quand Alexandre me présente le Grand Paris, il se trouve que son nom de famille me dit quelque chose, puisque sa petite sœur, Pauline, finit un stage chez nous. Donc, que ta sœur, vous pouvez suivre son compte Instagram notamment, elle adore aussi le secteur de la restauration, la nourriture de manière générale. Et aussi, la question des producteurs était très importante chez elle. Elle nous a aidés notamment sur notre annuaire de producteurs. Donc, il doit quand même y avoir quelque chose de familial dans cette histoire.
Vous êtes bien renseigné. en fait, je pense que ça vient de nos grands-parents. En fait, nos grands-parents du côté de ma mère et du côté de mon père étaient agriculteurs.
OK.
Donc, je pense que ça vient aussi de là. Ma grand-mère adore cuisiner. Donc, en fait, avec ma sœur, on a passé énormément de temps en cuisine avec ma grand-mère. Et surtout aussi, on a eu l'éducation entre guillemets du bon produit, le produit qui vient du jardin, manger des haricots verts qui sortent tout juste de terre, donc avec des goûts, de la saveur, pareil pour les salades, les fraises, etc., où en fait on allait dans le jardin cueillir ses fraises, ramasser les haricots, etc. Donc je pense qu'il y a cette culture de se dire on a une culture du bon produit et en fait on veut essayer de la démocratiser, et ça passe aussi par les petits producteurs, parce que tout le monde n'a pas la capacité d'avoir un jardin, surtout en ville. Donc c'est comment, en fait, on arrive à reconnecter le producteur avec la ville, et je pense que ça, la boucle vient de là.
Et ce que j'allais dire, t'es pas trop malheureux à Paris sans jardin et sans potager ? Parce que tu viens pas de Paris, du coup.
Je viens pas de Paris, je viens de Rouen. Après, j'ai fait une partie de mon internat à Amiens, après je suis parti à Lille, donc j'ai pas mal bougé plutôt dans le nord de la France. J'adore Paris, mais j'ai aussi besoin de cette reconnexion avec la nature de temps en temps et se reconnecter avec la terre, le terroir, etc. Sûrement dû à mon attachement avec la Normandie.
Et donc ce projet de bière, comment ça se passe ? Donc tu lances ça ? Est-ce que c'est un succès ? Comment ça ?
En fait, c'est un gros pari. C'est un gros pari. On est en janvier 2017. Et là, je me dis, il y a la présidentielle qui arrive. C'est un moment qui est hyper médiatique. Il y a un truc à faire. Je ne savais pas ce que je pouvais faire, etc. Et en fait, c'est passé dans un bar. Mes potes, ils m'ont dit « Mais pourquoi tu ne lances pas une bière qui flirte sur la présidentielle ?» Et en fait, c'est parti comme ça. On a lancé la bière des Français. Mais je ne voulais pas lancer n'importe quel projet. Je voulais aussi qu'il y ait un côté un peu militant, vouloir faire passer un message. Donc, c'est là où je me suis dit « En fait, je vais prendre un brasseur qui ne vient pas de la région lilloise. Et en fait, je vais aller le chercher dans d'autres régions pour mettre en avant d'autres brasseurs et montrer aussi la panoplie de brasseurs. Parce que surtout en 2017... on était à l'époque de l'éclosion de la microbrasserie. C'était quelque chose qui n'était pas encore très développé. Aujourd'hui, il y a des milliers de microbrasseurs, même juste en parlant de Paris, il y a des centaines de microbrasseries. Mais à l'époque, c'était un courant qui était en plein boom. Et en fait, c'était surtout le retour à la bière craft en France, la bière artisanale. Le consommateur était en train de... essayer de comprendre qu'est-ce que la bière, parce qu'on avait pris l'habitude de boire de la bière de grande surface, issue de...
industriel,
toutes les marques qu'on connaît. Donc il y avait un vrai retour à la bière de qualité, et en fait c'est pour ça qu'on s'est dit ok, on se lance sur la bière. Et en fait ce qu'on a fait pour vraiment vendre le truc, c'est que sur chaque étiquette il y avait une caricature de chaque président qui allait se présenter à la campagne, et donc chaque bière c'était une bière différente, avec un goût différent, et en fait on a vendu ça au début dans quelques concept stores, et on a eu la chance de rencontrer un mec qui s'appelait Sylvain sur un salon à 5 jours avant le début de la campagne, début avril. Il vient nous voir, il nous dit j'adore votre concept, est-ce que je peux vous référencer? On lui dit ok, et en fait rendez-vous avec lui le lendemain matin à 11h, et on apprend qu'il a 12 restaurants sur l'île, et qu'il veut monter une façade de 2 mètres par 3 avec que nos bières, et là c'est parti. Et après on a réussi notre pari, parce qu'on a réussi à avoir le retour médiatique de l'apparition presse, etc. Et donc ça a été vraiment mon premier projet entrepreneurial,
et des bonnes bières.
Donc ça a vraiment été mon premier projet entrepreneurial, mais aussi un goût d'échec, même si on a très bien réussi. Un goût d'échec dans le sens où, et c'est pour ça qu'après j'ai voulu vraiment peaufiner mon parcours en cabinet de conseil, parce qu'il me manquait de la structure. On avait vraiment lancé ça entre guillemets à la va-vite, de se dire on a une course contre la montre, la campagne commence dans 4 mois, on n'avait pas du tout pensé à l'après. L'idée, ouais, c'était de vendre un maximum de bière pendant, ouais, la campagne. Et en fait, à la fin de la campagne, on s'est dit qu'est-ce qu'on fait en fait.
Et t'as un peu la fougue entrepreneuriale quand même, parce que moi, je l'ai un peu ressenti cette fougue quand tu m'as présenté le Grand Paris. On était là, on a un super projet, on va lancer un livre, vous allez nous accompagner et tout. Et tu me dis, pour la petite histoire, on est genre en novembre, décembre, et il me dit, on lance ça en janvier.
Ouais.
J'étais là, ah oui, donc les délais ne sont pas très longs.
Non.
Y a quand même, j'ai l'impression que chez toi, il y a cette animation. T'as envie d'être entrepreneur.
Ouais. Bah, j'ai toujours été animé par ça, vraiment toujours été animé par l'entrepreneuriat, toujours été très animé aussi par le monde des startups. Et en fait, je pense que cette fougue a été aussi accélérée par mon passage en cabinet de conseil, parce que j'étais dans un cabinet qui était en phase d'hypercroissance, où il fallait que ça aille très vite, les décisions étaient très courtes, il fallait toujours se réinventer en permanence. Donc en fait, je pense que ça a aussi permis de formater mon esprit, de se dire, d'avoir une méthode très test and learn. On teste, on y va, on voit si ça fonctionne. Si ça ne fonctionne pas, on pivote, on va vers autre chose. Mais vraiment de se dire, il faut créer en permanence pour avancer, et pas se reposer sur ses lauriers. Donc je pense que c'est une conviction personnelle de ce que j'ai toujours été voulu entrepreneur. Et puis après, c'est les rencontres qui ont fait que ça a positionné mon goût du risque, et sur cette rapidité, je pense que c'est mes expériences.
En tout cas, tu as donc cette première expérience dans la bière qui est moyennement satisfaisante,
ouais,
parce que derrière, tu lances quand même un produit qui fonctionne sur la campagne présidentielle, ouais, mais qui ne se structure pas derrière. Donc tu restes en cabinet de conseil jusqu'au Grand Paris, ou il se passe des choses entre le Grand Paris et cette bière?
Non, globalement, je reste assez focus sur le cabinet de conseil. Mais après, en fait, j'ai évolué j'ai fait 3 postes en un. En fait, en 3 ans, j'ai changé 3 fois de poste. Donc, pas le temps non plus aussi de monter des projets, sachant que, par exemple, sur la gestion de l'espace, je suis arrivé dans une phase où, on a un lieu de 1600 m², mais comment l'opérer? Enfin, maintenant, faut le mettre sur le marché, quoi. Faut trouver les clients, etc. Donc, il y a eu vraiment la phase de 0 à 1 aussi, qui a aussi permis de construire aussi ma fibre entrepreneuriale, de se dire, faut tenter des trucs, faut trouver des partenaires, faut aller démarcher des clients, faut faire tourner le lieu, etc. Donc, en fait, j'étais un peu intrapreneur dans le cabinet. Et là, c'était après, il y a eu le Grand Paris, et c'était le grand saut de se dire, maintenant, je saute à mon compte et on y va à fond.
Ouais, ok. Je voudrais qu'on parle du Grand Paris, évidemment.
Ouais.
Avant cela, dans ton cabinet de conseil, est-ce que le Grand Paris, justement, apparaît à un moment où pour toi, t'en avais marre et tu voulais faire autre chose?
Ça apparaît, en fait, Je m'étais toujours dit qu'à un moment, il fallait que je sorte. Et quand je sortirais, ce serait pour monter mon projet. Et je pense que l'année 2020 était aussi une année de remise en question pour tout le monde. Ouais. Et je pense que le déclic s'est vraiment fait lors du premier confinement.
T'es confiné où ?
Je suis confiné au Cap Ferret, donc ça va. ça va, je peux pas me plaindre de mon premier confinement. Mais ça a été quand même une remise en question, sachant que moi, mon job dans le cabinet de conseil, c'était quand même de développer des espaces. Il y avait toute la partie offre à destination des hôtels, mais pareil, les hôtels fermés, les restaurants fermés. Donc, point d'arrêt aussi pour l'offre, parce que les budgets sont gelés, on ne sait pas où on va. Donc, tout est gelé d'un seul coup. Moi qui étais habitué à être très présent dans les locaux par mon job, je me retrouve d'un seul coup à être à distance. Donc, pareil, pas facile à vivre. Et en fait, le déclic, je pense qu'il s'est fait lors du deuxième confinement. Vraiment, le deuxième confinement. On parlait déjà avec mes deux associés, Richard et Yanis, à la fin du premier confinement, de monter un projet.
C'est amis à toi, Richard
ouais,
et Yanis ?
Ouais, potes d'enfance.
D'accord.
Potes d'enfance et Yanis, avec qui j'ai fait aussi le coup de la bière des Français. Donc, on a déjà fait quelques coups ensemble. Et donc, en fait, fin du premier confinement, on décide de se dire « Ok, on s'associe, on va monter quelque chose ». Quelque chose dans le monde de la restauration, c'est un secteur qui nous anime, sans savoir où on allait aller, mais on commence à réfléchir, à se dire faut qu'on se positionne sur quelque chose. Et arrivé du deuxième confinement, par rapport à tous les échos, toutes les infos aussi qu'on récupère en cabinet de conseil sur les évolutions des secteurs, etc., parce que c'est aussi ça l'avantage d'un cabinet de conseil, c'est qu'on a beaucoup d'infos qui passent. Donc après on essaie de s'abreuver de ses connaissances pour essayer d'extrapoler des choses. Mais il y a quand même une grosse tendance qui se développe. C'est toutes les questions de durabilité, toutes les questions d'écologie, toutes les questions de circuit court, etc. Et là, on se dit, OK, faut qu'on y aille. En fait, on a trouvé notre chemin de bataille. Ça correspond à nos valeurs. On a un secteur qui a besoin de se transformer, le secteur de la restauration. On pense que 2021 va être une année vraiment de transformation pour le secteur et qui va s'accélérer dans les années à venir. Donc, positionnons-nous là-dessus et puis on fonce et on monte le fameux livre, le projet Le Grand Paris. Parce qu'au début, ce n'était pas un livre. Au début, c'était de se dire on va monter une offre type cabinet de conseil à destination du secteur.
Comment tu passes du cabinet de conseil à ce livre qui est donc à la fois un guide, à la fois un livre d'informations et de recettes ?
Ouais. En fait, ça passe par des rencontres, beaucoup d'interviews de chefs, beaucoup d'interviews de restaurateurs, où ils nous disent globalement tous, on comprend les enjeux, on sait qu'on va devoir y aller, on sait qu'on va devoir s'engager sur toutes ces questions. On ne sait pas forcément le faire, donc à un moment, on aura forcément besoin d'accompagnement. Par contre, pour le moment, on est dans une phase on est indécis. On est dans une phase de flou total. On ne sait pas où va le secteur. On ne sait pas quand nos restaurants vont réouvrir. Il y a même quelques restaurateurs qui nous disent on ne sait même pas si on va réouvrir. Et donc là, on se dit OK, on a l'offre dans la tête. Est-ce que c'est ça qu'on fera après ? On ne sait pas. Mais il faut qu'il fasse un truc, faut qu'on fasse quelque chose qui soit entre guillemets décorrélé de l'actualité, décorrélé du confinement. Et il faut qu'on passe un message. Et c'est là où on s'est dit OK, on écrit un livre. Ça nous permet de pousser le concept au maximum, de ne pas être dépendant des confinements, des couvre-feux, etc. Et de se dire, avec ce livre, on va pouvoir faire passer un message et montrer au secteur, montrer aux consommateurs qu'en fait, y a des restaurateurs qui ont déjà engagé ces démarches. Il y a plein de restaurateurs aujourd'hui qui se travaillent qu'en circuit court. On ne le sait pas forcément, mais la transformation, elle est déjà en cours dans le secteur. Il y a des chefs qui font déjà ça depuis des années. Et en fait, on va montrer ça avec des interviews, des recettes, pour montrer aussi à travers les recettes que cuisiner local, cuisiner en circuit court, ça ne coûte pas forcément plus cher et puis ce n'est pas forcément plus difficile. Et surtout, c'est pas forcément difficile aussi de cuisiner. On peut faire des bonnes recettes facilement parce que le livre a aussi un côté éducation, parce qu'on pense que cette transformation, elle passe aussi par le consommateur. entre guillemets, en lui réapprenant à cuisiner, parce que c'est des valeurs qu'on a perdues. Donc il y a aussi toute cette question de comment le consommateur va revenir en cuisine, comment il va réapprendre à manger, comment il va réapprendre à cuisiner. Et enfin, on finit par plutôt un guide des restaurants, mais on ne voudrait pas appeler ça un guide parce que on n'a pas la science infuse pour se dire faut que tu ailles manger dans telle adresse.
Ouais.
C'est plutôt des repères où en fait on a interviewé un panel de consommateurs qui nous ont partagé les bonnes adresses. Et c'était de se dire en fait on n'oublie personne dans ce livre. Et en fait, même si il y a des restaurateurs qui ne sont pas encore engagés dans toutes ces questions, c'est quand même des très bons restaurants sur Paris. C'est des restaurants qui, on est persuadé qu'à un moment, ils feront aussi ce cap. Donc, on ne peut pas les laisser sur la sellette. Donc, on voulait être vraiment
inclusif
et pas se dire on fait uniquement un livre militant. C'était vraiment de se dire on a un fil rouge qui est ce côté militant. On veut faire passer un message, mais on reste très inclusif vis-à-vis du secteur.
Ouais, ok. Ok, je comprends. Par rapport à cet engagement, d'où il vient chez toi ? Est-ce que tu considères que tu as toujours été... Alors, je ne sais pas si tu aimes le terme militant, mais ouais. En tout cas, militant écolo ? Tu l'es ?
Je ne dirais pas que je suis militant écolo. J'ai des convictions par rapport à ça. Je fais attention à ce que j'achète. J'aime beaucoup rencontrer les producteurs. J'aime beaucoup cuisiner. Donc, je pense que j'ai un socle... Je ne sais pas s'il y a un prototype de quelqu'un qui est militant ou pas.
Le terme militant te gêne ?
Je ne dirais pas que je suis militant, mais je dirais plutôt que je suis engagé. Le militant, je trouve que c'est un peu fort. Je ne pense pas que je suis au point d'être militant. Mais j'ai des convictions et en fait, j'ai envie de les porter sur le marché.
Okay.
J'ai envie de les porter sur le marché et j'ai envie d'accompagner ce marché par mon engagement.
Et ils viennent d'où justement ces engagements Est-ce que tu te rappelles, est-ce qu'il y a quelque chose qui a créé le déclic chez toi où tu t'es dit, ok, c'est plus possible en fait, faut que mon avenir professionnel il soit lié à ça. Est-ce qu'il y a eu un déclic ou c'est petit à petit ça s'est construit
Je pense qu'il y a eu un déclic à Vancouver. Je pense que le premier déclic que j'ai eu à Vancouver vis-à-vis de la nourriture, c'est dans les supermarchés, avoir des pommes, la pomme elle était immense, les tomates étaient immenses, les blancs de poulet étaient immenses, tout était immense et je me suis dit c'est quoi ça, enfin ils ont mis quoi dedans, c'est pas possible. Et là ça a été le premier choc un petit peu, et puis après je pense que ça s'est fait au fur et à mesure et aussi par rapport à je reviens au cabinet de conseil, mais par rapport à tout ce qu'on entend, etc., je pense que ça a nourri aussi ma réflexion, nourri mon positionnement par rapport à ça. Donc, ça a renforcé mon engagement. Mais peut-être que le déclic, ouais, c'est fait quand j'ai vu ces immenses pommes à Vancouver.
Je comprends. Et tes associés, ils sont engagés ?
Ouais, on est tous engagés. En fait, c'est surtout ça qui nous rapproche, c'est vraiment le côté engagement des valeurs communes, parce qu'on n'a pas forcément que des valeurs par rapport à l'alimentation, on a aussi des valeurs autour de l'artisanat, parce qu'il faut aussi défendre l'artisanat français, c'est important, on est en train de perdre tous ces artisans, et c'est ça aussi qui fait la force de la France, c'est cette panoplie d'artisans, cette panoplie de métiers, ces savoir-faire qu'on est en train de perdre, et ça, il faut aussi... Je vais utiliser le mot militer, mais il faut aussi militer pour.
Aucun problème.
Il faut les accompagner. Donc, il n'y a pas forcément que l'axe de la restauration, mais c'est plus en fait, la défense de tous ces constats, que ce soit sur l'alimentation, sur la restauration indépendante. C'est un de nos fers de lance, entre guillemets, je dirais pas sauver, mais d'accompagner la restauration indépendante, parce que c'est un concept qui est en train de se perdre également. Et puis par ça, par restauration indépendante, ça passe également par les artisans. Et je parle pas uniquement de l'artisan présent dans l'alimentaire, hein, ça passe aussi très bien par le cordonnier, par le fleuriste, par le boucher, etc. Où en fait, on se rend compte que, je prends l'exemple du boucher ou du poissonnier, mais... globalement, je ne sais pas si je mets un point de tabou dans les boucheries, mais les trois quarts en fait, des aliments qu'on trouve en boucherie sont pas forcément de bonne qualité, issus de petits producteurs, etc.
Ça me fait plaisir que tu le dises, parce qu'il n'y a pas encore si longtemps, on me présentait un jambon en me disant « Mais Fanny, c'est du jambon de chez le boucher. Enfin, c'est sûr que c'est de la qualité. » Alors qu'en fait, bah non. Enfin,
bah non.
98% de la viande qu'il y a chez le boucher fait partie de l'élevage industriel.
Voilà. Donc non, vraiment, c'est ça. Et puis en fait, c'est toutes ces questions. Et en parlant de chiffres, il y a aussi toute cette question que l'alimentation aujourd'hui est responsable de presque la moitié des émissions de gaz à effet de serre dans les villes, etc. Donc, il n'y a pas que la question de l'alimentation, en fait. C'est tout un secteur qui a réinventé, parce que plus que ce qu'on met dans la bouche, il y a aussi la façon dont on amène la nourriture, que ce soit la logistique du dernier kilomètre. Quant à un restaurant qui a 10 camions qui viennent tous les matins pour livrer des produits, ça pose aussi des questions. Donc ça, c'est plein de questions sur le groupage, etc. Donc il y a tout un secteur où, en fait, il va falloir transformer ça, et on a envie d'être présent, en tout cas, sur un des axes. Mmh.
C'est intéressant ce que tu dis sur l'artisanat, parce que de fait, pour la bière, alors il se trouve que cet épisode, vous l'écouterez le 10 février, il a été enregistré un petit peu avant, et que sera publié dans les semaines avant un épisode de Sur le grill des Cotables sur la bière. Et que, en fait, la bière, contrairement peut-être à d'autres métiers, fait partie de ce secteur où l'artisanat est en plein boom, ouais. où les bières artisanales se développent. Peut-être d'ailleurs que le mot est un peu galvaudé, mais voilà, ça se développe. Est-ce que là, tu nous as parlé de ta peur, justement, ou alors plutôt de ton envie de soutenir ces artisans? T'as la sensation que dans le milieu du secteur, dans le milieu de la restauration, il y a un risque par rapport à ça? Tu nous as parlé des indépendants.
Ouais. Bah, en fait, c'est. Je pense que oui, il y a un risque vis-à-vis de la restauration indépendante, dans le sens où, en fait, aujourd'hui, quand on regarde une cartographie un peu de la restauration, le mec qui veut manger des plats issus de petits producteurs, de qualité, avec une ambiance, une présentation dans l'assiette, etc. On arrive tout de suite dans des prix assez élevés, avec un ticket moyen qui est assez élevé. Et de l'autre côté, on a toute la partie fast-food qui se développe, avec les nouveaux concepts aussi de fast-good, etc. Où là, on est sur des tickets moyens assez faibles, pas faibles, mais accessibles. Mais sauf que derrière, bah, il n'y a pas toutes ces questions de qualité alimentaire, il n'y a pas toutes ces questions de sourcing, il n'y a pas toutes ces questions de petits producteurs. Et en fait, on se rend compte qu'il y a un gap qui est en train de se créer. Il y a d'un côté les personnes qui ont les moyens d'aller au restaurant, et en fait, ils vont avoir accès à cette alimentation, etc. Ils vont aussi avoir la connaissance du circuit court. Ils vont avoir la connaissance des producteurs, de la qualité, en fait, de la nourriture, de qu'est-ce qu'on met dans leur assiette. Et de l'autre côté, il y a toute l'émergence des fast-food où, en fait, OK, ça coûte pas cher, mais par contre, ça coûte pas cher, mais tu es en train de niquer ta santé. Enfin, entre guillemets, c'est parce que tu t'avales, enfin, c'est pas que tu avales de la merde, mais presque. Donc, et au milieu, en fait, la restauration indépendante a de plus en plus de mal à vivre parce que elle est sur un ticket moyen qui est autour de 30-50 euros. Le consommateur moyen, maintenant, il fait un choix entre je veux manger pas cher, ou sinon je me fais plaisir de temps en temps et je vais taper dans un truc un peu plus haut de gamme. Mais par contre, le petit bistrot du coin, la petite brasserie du coin, etc., qui fait des très bons produits, a du mal à s'en sortir parce qu'il y a de moins en moins de consommateurs. Et surtout, en fait, elle a un accès au marché qui est différent, parce qu'elle n'a pas forcément les économies d'échelle d'un grand groupe pour accéder à ces bons produits. Donc dans son ticket moyen, ça va se refléter. Il y a toutes ces questions, en fait, qui se posent. J'ai pas de réponse par rapport à ça, claire. Mais ce que je sais, c'est que il va falloir trouver des solutions aussi pour accompagner ce restaurant indépendant qui a envie de proposer des bons produits, qui a envie de faire des belles assiettes, mais qui, en fait, de temps en temps, va pas pouvoir utiliser tel ou tel produit parce qu'en fait son coût de revient est trop cher, parce que ça va être trop compliqué à livrer, parce que ça va être trop compliqué à produire. Enfin, il y a toutes ces questions qui se posent de se dire en fait comment on va rendre accessible le petit producteur, l'alimentation à l'ensemble du secteur. Et nous, notre conviction, qu'en fait c'est par la restauration qu'on arrivera à transformer la société.
Par l'alimentation ou la restauration ?
La restauration.
Ok.
Par la restauration, et en fait, en parlant de restauration, ça passe aussi par l'alimentation. Mais nous, en fait, pour nous, le restaurateur a vraiment un rôle à jouer dans la société, dans le sens où, en fait, c'est un intermédiaire entre le petit producteur et le consommateur. Et le restaurateur, il a un rôle aussi d'éducation à donner quand il propose des plats issus de petits producteurs où en fait il sublime juste une tomate, mais en fait il a un rôle d'éducation vis-à-vis du consommateur en lui montrant qu'en fait juste avec une tomate on est capable de se faire une entrée qui est excellente en rajoutant un peu d'assaisonnement, etc. Il va lui réapprendre aussi le goût pour lui dire voilà, le vrai goût d'une tomate c'est ça. Et en fait, il va surtout développer deux axes. Il va développer en faisant ça déjà l'axe des producteurs, parce qu'en travaillant avec des petits producteurs, etc., il va aussi permettre de développer toute la partie agriculture urbaine, locale, etc. Donc ça, c'est un enjeu majeur. Et de l'autre côté, il va aussi éduquer le consommateur. Il va éduquer le consommateur à mieux manger. Et derrière, nous, ce qu'on espère, c'est ce consommateur qui mange bien dans un restaurant, ils se disent demain, quand je vais faire mes courses, je vais faire plus attention à ce que j'achète. Je vais faire plus attention à d'où viennent mes produits. Parce qu'aujourd'hui, il y a toutes ces questions de label, le bio, etc. Mais aujourd'hui, ça ne veut plus forcément dire énormément. Donc, c'est vraiment que le consommateur se pose les bonnes questions, de se dire qu'est-ce que j'achète, d'où ça vient. Et surtout, derrière, ça aura des répercussions sur sa santé. Et pour nous, le restaurateur a vraiment un rôle à jouer dans cette transformation. Parce que c'est vraiment l'intermédiaire.
Je suis tout à fait d'accord avec ça, dans le sens où il me semble qu'un des rares moments où notre esprit est complètement attentif et ouvert à apprendre autre chose, c'est notamment quand on mange et quand on lit une carte aussi. C'est un des rares moments où on est attentif à ce qu'on lit, on est attentif à ce qu'on entend et en mangeant, on apprend plein de choses. Donc ça, je pense vraiment aussi que les restaurateurs ont un rôle de prescripteur, hein, c'est pas pour rien que Écotable est né sur ces questions-là. Justement, par rapport à ça, j'entends tout ce que tu dis, mais est-ce que tu ne penses pas quand même que le politique a un rôle à jouer pour que justement il y ait une accessibilité à tout le monde de se bien manger, et notamment aussi pour les restaurateurs ?
Si, complètement. Enfin, il y a un rôle politique, mais je pense que en fait c'est aussi aux consommateurs de jouer le jeu, parce qu'aujourd'hui globalement s'il cherche un peu, etc., il peut réussir à trouver des produits, etc., pas très chers. Mais par contre, ça demande aux consommateurs de faire des recherches. C'est beaucoup plus long, etc.
Ça demande du temps d'espace dans le cerveau, quand même. Et ça, c'est pas donné à tout le monde d'avoir la possibilité d'avoir ce temps-là.
C'est compliqué, mais après, je pense que... Et on le voit aussi avec tout ce qui émerge sur les réseaux sociaux. Il y a aussi cette question, quand j'achète, je vote. Et je pense que c'est aussi aux consommateurs de prendre conscience par rapport à ça. De se dire, on ne lui interdit pas de se faire plaisir de temps en temps, etc. Mais de temps en temps, qu'il se pose aussi les questions de se dire, en fait, je ne peux pas tout reposer sur les politiques. Bien sûr qu'ils ont un rôle à jouer. Bien sûr qu'ils ont un rôle à jouer sur l'accessibilité. Parce que, notamment, je pense que c'est surtout sur la partie agricole. Parce qu'une transformation d'une ferme, la transformation d'une exploitation, passer d'une exploitation conventionnelle à une exploitation qui fait du bio ou du circuit court, etc., c'est des coûts énormes pour le restaurateur. C'est des pertes de rendement pendant des années avant de retrouver un équilibre, etc. Donc là, bien sûr que la politique a un rôle à jouer pour l'accompagnement de cette transformation. Mais je pense que c'est surtout aussi au consommateur de se dire « en fait, je la veux, cette transformation ». Je la veux, et en fait, derrière, la politique mettra les moyens pour accélérer cette transformation. Mais il y a d'abord pour moi une volonté du consommateur de se dire on y va.
Est-ce que ta mère, justement, dans son restaurant, elle avait une démarche éco-responsable ? Ou elle a, d'ailleurs ?
Si, ouais, de plus en plus. De plus en plus. Mais pareil, en fait, c'est... au début, en fait, c'est pas que c'est pas évident, mais en fait, la grande distrib et tous les distributeurs autour de la restauration ont tellement simplifié leur vie de se dire, bah, en fait, avec un seul fournisseur, moi, je vais tout apporter, la viande, le poisson, enfin, les condiments, etc., que c'est devenu une simplicité pour le restaurateur. Et en fait, si bah, demain, je me dis, je veux travailler avec des petits producteurs, etc., bah, y a aussi un rôle en tant que, qu'entrepreneur, en tant que restaurateur, bah, de faire la démarche, de chercher un petit peu, etc., de dire, ah, bah, en fait, après, ma mère est en Normandie, donc il y a aussi un accès à des producteurs qui est plus simple qu'à Paris, mais de se dire, bah, ah, bah, en fait, à côté de chez moi, j'ai un mec qui fait de la viande, je peux directement aller me sourcer auprès de lui, peut-être que je peux lui poser la question et peut-être qu'il peut même livrer au restaurant. Mais il y a une démarche qui est quand même un peu plus longue, et comme je rejoins ton propos de tout à l'heure, de se dire, bah, ça prend un peu de temps de cerveau.
Ouais. Je voudrais revenir sur le Grand Paris. Ouais. Quand tu m'as présenté le projet, tu m'as dit que c'était un mouvement citoyen.
Ouais.
Qu'est-ce que tu entends par mouvement citoyen ?
Bah, en fait, autour du Grand Paris, c'est pour ça qu'on... C'est porté par un livre, mais en fait, on veut aller beaucoup plus loin avec ça. C'est de se dire, au sens de mouvement citoyen, on va démontrer dans le bouquin, dans le livre, qu'il y a des restaurateurs qui font la démarche, qui sont engagés, parce que globalement, l'ensemble des interviews vont tourner autour de ça, que ce soit la transition alimentaire, l'écologie, l'humanité avec l'égalité homme-femme, etc. Donc, toutes les questions... que se pose globalement le citoyen et le restaurateur, enfin, toutes les questions qui se posent aujourd'hui en France. Donc, on démontre avec ce bouquin qu'il y a des acteurs qui sont prêts à entamer cette transformation, qu'ils ont déjà entamé la transformation. Et l'idée, c'est de se dire, dans le sens de mouvement citoyen, c'est que maintenant, avec le livre, on vous a démontré que c'était possible, que le secteur était prêt à se transformer. Maintenant, avec ce bouquin, vous votez pour qu'on accélère cette transformation. Parce que comme tu le disais au début du préambule, c'est que avec ce livre, en fait, après, c'est un partenariat avec Écotable, c'est de se dire bah, qu'en fait, on va chercher à accompagner ce secteur, on va chercher à accompagner cette transformation en offrant des formations aux restaurateurs ou en leur proposant de la labellisation, mais au moins un accompagnement pour qu'ils prennent conscience de ces enjeux et qu'on puisse accélérer cette transformation.
Et c'est quoi alors les projets d'après pour le Grand Paris ?
C'est une belle question. Le projet après, c'est de se dire on va continuer dans cette voie, de se dire on va continuer à accompagner le restaurateur dans cette transformation. Pas dans le sens de comme vous faites chez Écotable, je pense qu'on sera limite en co-construction vraiment avec le restaurateur. Je ne saurais pas te dire exactement à quel point, parce que pour l'instant, ce n'est pas encore décidé, mais vraiment être en co-construction avec le restaurateur et peut-être même monter des concepts en binôme avec des restaurateurs. Mais c'est de se dire qu'en fait, nous, sans prendre de parti pris, on a une connaissance sur ces enjeux, on a une connaissance aussi sur la logistique, on a une connaissance sur la com par rapport à nos expériences, etc. Vous, restaurateurs, vous avez un savoir-faire, et ça, on ne pourra jamais vous l'enlever. Vous avez un savoir-faire, vous savez cuisiner, vous savez donner envie aux consommateurs, vous savez donner plaisir aux consommateurs. Bah, co-construisons des trucs ensemble pour accompagner cette transformation et ensemble, on fera des grandes choses.
Je comprends. T'as quand même, tout à l'heure, tu nous as dit qu'une des difficultés de ton projet sur la bière, c'était qu'il n'avait pas été structuré. Est-ce que là, du coup, vous avez déjà réfléchi à un business plan, vous avez déjà essayé de structurer ce que va devenir le Grand Paris ? Parce que tu ne l'as pas dit, mais tu me l'as dit en off tout à l'heure, c'est que tu as démissionné, tu as quitté, en tout cas, tu quittes ton ouais, cabinet de
ouais,
conseil,
ouais.
Donc pour te lancer à 100% dans ce mouvement
ouais. Pour me lancer à 100% dans ce mouvement et surtout me lancer à 100% dans les valeurs qu'on porte et dans l'engagement qu'on veut porter parce qu'on veut aller beaucoup plus loin que simplement un livre. Et c'est de se dire maintenant, on a trouvé notre chemin de bataille. On veut s'engager dans la transformation du secteur. On veut s'engager dans l'éco-responsabilité, dans la durabilité et accompagner tous ces restaurateurs-là dans le mouvement pour que ça puisse... pour leur simplifier la vie et qu'en fait, on arrive à transformer tout un secteur comme ça. Donc après, par quoi ça va passer ? Pour l'instant, je ne pourrais pas te dire parce que même pour nous, ce n'est pas clair. Ce qui est sûr, c'est qu'en fait, on a rencontré énormément de chefs, on a rencontré énormément de restaurateurs, on a rencontré plein de monde. Et au fur et à mesure de ces discussions, y a des tendances qui se dégagent. Il y a une volonté des restaurateurs de se transformer. Et en fait, maintenant, c'est à nous de créer la bonne offre pour attaquer le marché et trouver une place dans cette transformation qui est assez passionnante.
Ok, je vous le souhaite en tout cas. Ma dernière question, c'est une question que je pose un peu à tout le monde, qui revient un peu sur l'aspect politique. Je pense que d'ailleurs, vu la réponse que tu as eue, je connais ta réponse, mais du coup, si tu avais une proposition politique à faire demain et aujourd'hui pour l'alimentation durable, ce serait quoi ?
Je partirais, si je pense à long terme, je partirais vraiment plutôt au niveau des écoles. Au niveau des écoles, et de se dire il faut passer une loi, hein, même s'il y a déjà des lois qui sont déjà moitié passées sur là-dessus, mais c'est de se dire qu'en fait, il faut rééduquer dès le plus jeune âge à l'alimentation. Et ça passe par les cuisines dans les écoles, que ce soit issu de petits producteurs, que ce soit issu de circuits courts, et surtout qu'en fait, on réapprenne dès le plus jeune âge qu'est-ce que l'alimentation, qu'est-ce que les saisonnalités, etc. Et ça, c'est un propos qui est souvent revenu dans la tête des chefs, c'est de se dire qu'en fait, aujourd'hui, on mange des fraises toute l'année, on mange des tomates toute l'année, ça n'a pas de goût. Et en fait, aujourd'hui, on n'apprend même plus la saisonnalité aux enfants, on n'apprend même plus à quelle saison faut manger les fraises, à quelle saison... faut manger les haricots, etc. Et je pense qu'il y a vraiment, je partirais vraiment sur le côté rééduquer dès le plus jeune âge. Et c'est comme ça parce qu'on arrivera à transformer tout le secteur sur le long terme.
Et est-ce que tu vas finir par ouvrir un restaurant ?
Je pense pas. C'était un projet de vie il y a encore quelques temps. Mais en fait, je me suis rendu compte que j'avais d'autres compétences à apporter au secteur, que ce soit... ma vue d'ensemble sur toutes les transformations qui se passent, ma capacité aussi avec mes deux associés, Richard et Yanis, où on a des compétences notamment dans la communication, dans le digital, etc. Et à côté de ça, on a des restaurateurs qui sont pleins de savoir. Donc en fait, autant associer nos forces et combiner ensemble nos forces pour créer quelque chose.
Bon, en tout cas, moi, je suis contente de voir qu'il y a des hommes qui se lancent sur cette question parce que chez Ecotable, on reste quand même encore très féminin et on voit que même dans nos offres d'emploi, encore beaucoup de femmes qui postulent et qui sont intéressées par l'environnement. Donc je suis ravie que cet intérêt soit porté aussi par trois hommes. Écoute, en tout cas, je vous souhaite le meilleur parce qu'en plus on est associés au projet. Donc, pour rappel, le livre il sort donc le 10 février. Il sera où est-ce qu'on peut l'acheter ?
On pourra l'acheter sur Ulule. Je ne sais pas si on pourra mettre le lien dans le podcast.
On pourra.
Mais donc, il sera disponible sur Ulule pour 30 jours. C'est vraiment des préventes. Et c'est vraiment le moment en 30 jours de se dire j'achète le bouquin et j'accompagne tout un secteur.
Et tu peux nous dire le prix de vente ?
Il sera à 30 euros.
Donc c'est l'achat à faire au mois de février pour soutenir la transformation du secteur de la restauration dans plus d'écologie. Merci beaucoup Alexandre.
Merci beaucoup Fanny.
Merci d'avoir écouté Sur le Grill d'Ecotable. Nous espérons que cet épisode vous a plu et que comme nous, vous avez appris de nouvelles choses. Pour nous soutenir, n'oubliez pas de noter ce podcast 5 sur 5, de vous abonner et d'en parler autour de vous. Sachez par ailleurs que la musique de ce podcast est issue du merveilleux groupe engagé, le Caribou Volant. Et puis surtout, n'oubliez pas d'aller manger dans les restaurants écotables. À bientôt sur notre grille !